Afro Bell, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Peur à l'oreille, l'émission qui vous donne des frissons. On se retrouve dans le studio de Radio Larzac à l'occasion des Nuits de la Lecture et nous allons vous présenter des textes, des poèmes, des musiques, de livres qui font peur. Alors préparez-vous, préparez un petit réconfort parce que peut-être que vous allez un peu avoir la trouille ce soir. Donc pour le moment on est quatre autour de la table et je propose qu'on fasse un tour de table pour se présenter. Donc à ma gauche il y a Alex.
Oui, bonjour.
Et donc Alex, t'as préparé plusieurs textes ce soir.
Ouais, j'ai choisi trois livres.
Et ben on va les découvrir petit à petit dans l'émission. Et puis à ma droite il y a Quentin.
Oui.
Salut.
Bonjour.
Alors tu vas nous lire des textes que t'as écrits toi
voilà,
ce soir.
Voilà, de courts poèmes.
Super. Et puis on a Richard.
Ouais, bonsoir. Et moi, je vais vous présenter un livre qui vient de sortir et c'est déjà un classique.
Ah ouais?
Ouais.
Et puis, il y a Nico à la technique. Salut, Nico.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, cette première partie va parler de la guerre, des blessures. Donc voilà, c'est des choses qui font peur à toutes et à tous. Et je propose qu'on commence sans plus tarder. Boston. Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can go. Donc pour commencer, on a un poème de Quentin. Vas-y, je te laisse le présenter si tu veux.
Oh, pas besoin de présentation, je crois qu'il veut parler de lui-même.
On t'écoute.
Se sentir écorché de la gueule, déformé de la rétine, acide. Trop lent, trop las, pantin. Cassé dans la ville futile, se sentir mal, inutile, désireux et perdu, fantôme, défaillant, sointé, tragique, dans un recoin oublié, plié, décimé, en dérive au bord, à côté, survivant, désintégré, homme-femme et déréglé, les règles sont, calmez-vous, taisez-vous, il y a des gerbes de fleurs, les morts s'égrènent, pour la France et la Révolution, faut apprendre à tuer, m'a-t-on dit dans la file, avec des yeux brillants d'amour.
Attention, Émile, derrière vous!
Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes.
Merci, Quentin. Donc on va enchaîner avec Richard, qui nous lit un classique du coup.
Et oui, c'est un texte de Louis-Ferdinand Céline qu'on a retrouvé dans une malle qui avait été volée lors de son exil au Danemark, enfin en Allemagne avec les collabos, puis ensuite au Danemark. Et son appartement s'était fait voler et il y avait toujours cette malle. Mais j'ai perdu la page, donc on fait une petite pause, excusez-moi. Le curé passait tous les jours. Lui aussi, il tournait autour de la barbaque. Mais il n'était pas difficile à contenter. Une confession de temps en temps, il se trouvait ravi. Il reluisait. Je me suis confessé, bien entendu, j'ai rien dit que des insignifiances. Pas si con. Bébert aussi s'est confessé. Mais Conny, lui, il était du genre bien plus vicieux. Il y tenait à m'extraire la balle. Il me regardait tous les matins, le dedans de la bouche et l'oreille avec des optiques de toutes les tailles. Pour le faire, il l'embouchait. Faudra avoir le courage, Ferdinand, de vous faire enlever ça. Autrement, votre oreille est perdue. Et votre tête aussi, peut-être. Il s'agissait de faire le con, de résister sans le vexer trop. Bébert, à me voir me débattre avec mes colonies, il se boyotait. La gonzesse, l'espinasse en retrait, elle m'encourageait à la résistance, mais pas trop. On aurait dit que ça la faisait mouiller de me voir résister aux méconies. Elle passait le soir et sans en avoir l'air me réchauffait la bite un bon coup. Au fond, c'était ma seule protection et encore, comme disait Bébert, fallait pas trop que je compte dessus. Tu parles. L'espinasse, tellement qu'elle était dans les huiles de l'état-major, elle pouvait, il paraît, me faire recommander 6 mois de convalo et qui était refusée jamais. Mais la série était pas complète. Un matin, je vois entrer un général à 4 galons dans la salle, précédé par l'espinasse précisément. À la façon de la gueule qu'ils avaient tous les deux, je sens le malheur qui fonce. Ferdinand, que je me dis, voilà l'ennemi, le vrai de vrai. Celui de ta viande et de ton tout. Regarde la gueule à ce général-là. Si tu le loupes, il te loupera pas. Où que je me trouve, que je me dis pour moi tout seul, ça me sépare du monde. À l'instant, il n'y a plus que l'instinct qui me parle et qui se trompe pas. On peut toujours alors m'en donner de la chansonnette, de la foire, de la crème, de l'opéra, des bignous, même du cul satiné par les anges du paradis. J'ai l'intelligence ferme, je me bute jusqu'au trognon. Le Mont Blanc sur des roulettes me ferait pas bouger. C'est l'instinct qui trompe, pas contre la moucherie des hommes, fini de rigoler. On compte ses balles, c'est marre. Il approche donc, le gonze de mon lit. Il s'assied, il ouvre sa serviette bourrée. Bébert, il écoutait bien aussi comment que j'allais me démener. L'espinasse, elle me le présente. Le commandant Récumel, rapporteur du conseil de guerre du 92e corps d'armée, vient enquêter sur les circonstances où vous êtes tombé avec votre convoi, Ferdinand. Il s'agissait bien, n'est-ce pas, d'un guet-apens, Ferdinand, comme vous me l'avez raconté. Ce sont des espions qui vous ont traqué sur la route et sur... Elle me tendait la perche, la gonzesse. Elle m'armait, comme on dit. La bouille à Récumel, c'était pas du bonbon. J'avais connu forcément bien des gueules de gradés que même en train de fouiner, un rat y aurait réfléchi avant de mordre dedans. Mais le commandant Récumel, ça dépassait mon expérience en répulsion. D'abord, il avait pas de joues. Il avait que des trous partout comme un mort. Et puis seulement un peu de peau jaune et poilu tendu transparente à travers. Il y avait rien que la méchanceté sûrement en dessous du vide. Au fond du vide, des orbites, des yeux si intenses alors que le reste ne comptait plus. Des yeux convoiteurs un peu d'andalouse. Pas de cheveux non plus, de la lumière blanche à la place. En le regardant celui-là, même avant qu'il parle, Ferdinand, que je me suis redit, tu peux pas aller plus loin. Il n'y a sûrement pas plus canaille, plus effrayant dans toute l'armée française. C'est un spécial. S'il trouve moyen, ce mec-là, on te fusille au prochain lever du jour. Fallait l'entendre alors dans les questions qu'il a posées. C'est tout écrit, mais ce que j'ai remarqué d'emblée, et ça m'a donné de l'espérance, c'est qu'il ne savait pas un mot de ce qu'il racontait. C'est tout inventé. Si j'avais eu de l'instruction, moi je l'aurais possédé comme un crabe au moment même. Il bavait. Je sentais bien qu'il déconnait, mais j'avais pas assez d'instruction pour le mettre en boîte. J'aurais fait marrer tous les copains. Il comprenait rien à ce qui s'était passé avec le derrière et le convoi. Il voulait avoir l'air de savoir. C'est là qu'il était tout con. Ces choses-là, ça s'imagine pas, surtout avec un cœur méchant. Ça se sent, et puis c'est marre. Donc rien à expliquer. J'ai laissé parler la môme l'espinasse, elle savait aussi parler beaucoup comme mon père pour ne rien dire. Il n'osait pas l'interrompre, décidément elle avait de l'autorité partout. C'était une puissante, je lui aurais embossé les dents. Tout de même, ce funèbre, il la voulait quand même ma peau. Il y revenait. Ce qu'il en restait, c'est-à-dire, il se trémoussait sur la petite chaise en fer, il faisait un bruit de castagnette avec ses fesses tellement que ça l'agitait. Mais il était tellement à côté dans ces espèces d'insinuations qu'il en était marrant et même pénible. Pour un peu, je l'aurais remis sur la voie, je l'aurais aidé. Il me gênait par sa balourdise. Il n'avait rien compris du tout aux choses de la guerre, de mouvement et de la cavalerie. On l'aurait envoyé un peu se faire tabasser, d'abord chez les dragons. Alors en revenant, il aurait peut-être su. Il aurait pris de la culture et de la graine. C'est tout dans la vie de prendre le ton, même pour l'assassin.
Merci Richard. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre ?
Guerre de Louis-Ferdinand Céline.
Merci beaucoup. Donc cet extrait parle de peur, d'angoisse, mais aussi de colère. Et on a trouvé que ça se liait bien à ce que toi t'avais trouvé aussi, Alex.
Oui, alors moi, je vais lire le début du livre Croire aux fauves, qui n'est pas encore un film, de Nastasia Martin, donc, qui est anthropologue, qui étudie les populations arctiques et qui s'est fait donc attaquer par un ours dans les montagnes du Kamtchatka. Donc voilà, je vais commencer, c'est les premières pages. Automne. L'ours est parti depuis quelques heures maintenant, et moi j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges. Le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine, aux traits disparus, sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance, puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns, solidifiées par le sang séché, jonchent le sol, rappellent le récent combat. Depuis 8 heures, peut-être plus, j'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garrotté ma jambe avec la lanière de mon sac quand l'ours s'est enfui. Nikolai a aidé à me bander le visage lorsqu'il m'a rejointe. Il a vidé sur ma tête nos précieuses réserves de Sprite qui ont coulé le long des joues avec les larmes et le sang. Depuis, il m'a laissé seule. Il a pris mon petit Alcatel de terrain pour appeler les secours du haut d'un promontoire en pensant, sûrement, au réseau incertain, au téléphone antique, aux antennes lointaines, que tout cela fonctionne, parce que les volcans nous encerclent, eux qui célébraient il y a quelques instants seulement notre liberté et qui scandent à présent notre enfermement. J'ai froid. Je cherche mon sac de couchage à tâtons. Je m'en mitoufle comme je peux. Mon esprit part vers l'ours, revient ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui, éclatant, fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel, ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés. J'entends comme le fauve, je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever, ou pour que je l'achève, moi, ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà je sais, je sens, que ça n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant, qu'il trébuche dans la steppe d'altitude, que le sang perle sur son pelage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes, lui sans moi, moi sans lui, arriver à survivre, malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre, arriver à vivre avec ce qui a été déposé.
Merci Alex. Voilà. Tu voulais peut-être nous raconter ce qui se passe après ?
Oui, s'ensuit donc l'arrivée, effectivement l'hélicoptère arrive et elle se retrouve dans un hôpital en Russie, au fin fond de la Russie. Voilà, ce qui est un peu une situation inquiétante, outre le fait qu'elle est quasiment dévisagée. Voilà. Et après elle revient à Paris et elle se fait soigner.
Merci beaucoup. Et donc Quentin, tu avais aussi un poème qui parle un peu d'hôpital, de maladie, de soins.
Et de visage.
Et de visage. Vas-y, on t'écoute.
Je suis au travail, monsieur. Je ne vous parlerai pas. Vous avez un joli sourire. Caché, monsieur, derrière un masque, je ne veux pas savoir. Je préfère les croyances, ami. La fable et l'ignorance, la peur par habitude, la mort. Vous avez un joli sourire d'habitude. C'est dangereux, mon cher, de vivre. D'habitude, je ne fais pas ça, monsieur, l'amour, j'ai peur d'être distraite, c'est pourquoi je ne vous parlerai pas. Les sorcières du réel ont la mémoire de la mesure, le regard opaque, elles s'oublient pourtant dans mes rêves, leur bruit de jouissance par la fenêtre. C'est impossible, monsieur, vous avez un joli sourire, c'est impossible. J'aimerais mieux vous sourire, mieux vous connaître, mieux vous penser, mieux vous vivre. Je n'ai pas encore ressenti cela, monsieur, la fêlure et la lumière.
Merci Quentin. On arrive déjà à la fin de cette première partie et on va continuer sur des choses un peu plus abstraites, un peu plus métaphysiques. Peut-être on peut conclure en disant brièvement quelle est l'une de nos peurs, de nos plus grandes peurs. Est-ce que quelqu'un a déjà une réponse?
La peur?
Non, je pense la souffrance. Moi.
Pour moi aussi, un peu. La peur de souffrir avant de mourir, en fait, que ça soit pas quelque chose de subit, quoi.
Je te rejoins là-dessus. Voilà.
Ouais, il y a un truc qui me fait super peur, c'est la spéléologie.
Ah,
de me retrouver enfermé dans une grotte et que l'eau monte, et ça, vraiment,
bienvenue à
jamais
Mio.
De la vie, quoi.
Bienvenue à Mio.
Et toi?
Moi, la peur.
Le
fait d'avoir peur et la peur ressentie par les autres, ça peut vite devenir dangereux et pour eux et pour moi, nous.
Oui. C'est vrai que quand il y a quelqu'un au côté de nous qui a peur, après on a peur aussi. Ouais, c'est compliqué de le rassurer.
Souvent, ça transmet.
Ouais.
Et on ne sait pas trop quoi faire quand les gens ont peur. Hein. C'est.
Ouais.
Pas avoir peur nous-mêmes déjà.
Ouais, c'est assez communicatif, la peur.
Ouais.
C'est vrai. Toi Nico, t'as une autre réponse?
Je pensais aux fanatiques, à la douleur et aux cons.
Ouais, c'est vrai que les cons peuvent faire peur.
Et les cons fanatiques qui ont peur, alors là, et qui souffrent.
Et c'est le nombre. Il y en a beaucoup.
Ouais. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et avant de continuer, on va écouter une musique.
Eh bien, bienvenue dans la deuxième partie de cette émission spéciale Nuit de la lecture sur le thème de la peur. Nous allons avoir une nouvelle session de texte. Alors, donc, Quentin, tu reprends le micro pour un nouveau texte de ton stylo.
C'est ça. C'est ça, un nouveau court poème et qui parle de la peur de celui qui l'écrit et en même temps de la peur du vide.
C'est parti.
Bouge pas, je recule jusqu'à trouver ton corps. Sans nom, juste un numéro sur le coin d'un immeuble au faible éclat. C'est que la couleur des rues la nuit se devine dans l'anonymat de la pénombre. Bouge pas, ce ne sont que des rires, des ombres, des étoiles qui filent, des paroles. Entêtant seuls les mots sortis mous et flasques à la lumière, ils ne peuvent exprimer que le vague, naissant manchot du bras de nos pensées, disparaissant dans le vent. Les tissus, les peaux en restent intouchés. Je suis poète, oiseau aux longues griffes rouges tendues dans le vide, puis reculant pour saisir le vertige. Je veux dire, tombez, mon amour.
Alors, nous enchaînons cette fois-ci avec Gaëtan, qui a amené un livre. Est-ce que tu peux nous présenter ton livre ?
Alors, le livre, c'est « Les fleurs du mal » de Baudelaire. Voilà, donc je vais lire un sonnet qui s'appelle « Le gouffre ». Un sonnet où il fait notamment référence à Pascal. Donc, avant de lire ce sonnet, je vais lire un petit extrait de Pascal. Pascal, dont une des phrases très connues est « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie », et qui développe un peu cette idée dans un texte qu'on appelle souvent « Les deux infinis », les deux infinis qui sont le néant et l'infini. Pour contextualiser un peu le truc, il va nous proposer de nous positionner, nous, en tant qu'humains, entre ces deux infinis. Voilà, ça donne ça, je vous lis juste les deux derniers paragraphes de ce texte qu'on trouve dans les pensées de Pascal. Qui se considérera de la sorte, s'effraiera de soi-même, et se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces merveilles, et je crois que sa curiosité, se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Quelques siècles plus tard, on a Baudelaire qui écrit Le Gouffre. Ça donne ça. Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant. Hélas, tout est abîme. Action, désir, rêve, parole. Et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs menant on ne sait où. Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres, et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres. Voilà.
Merci beaucoup, et donc on a vu de la poésie, et maintenant on va retourner sur de la prose, sur un extrait d'un livre que tu voulais nous présenter, Alex, parce que ça parle aussi... peut-être pas du vide, mais de la hauteur.
Ouais, du vertige, quoi. C'était pour faire un lien avec la notion de vertige. C'est une jeune femme qui est à 50 mètres du sol, qui occupe un séquoia. Et donc le livre s'appelle « De sève et de sang » de Julia Hill. Et c'était aussi la thématique de la peur dans, par exemple, le militantisme ou les actions qu'on peut mener, les actions de lutte. Donc c'est le chapitre 6 qui s'appelle « En état de siège ». Allemonde descendit le 4 janvier 1998 au bout de 25 jours. J'avais enfin l'arbre pour moi toute seule. Je ne savourais pourtant pas complètement ce moment de grâce. Maintenant que j'étais seule, je devais aussi faire face à mes peurs, sans personne à mes côtés. Chaque fois que j'apercevais les employés de la compagnie forestière, mon cœur battait la chamade. Qu'allait-il bien pouvoir encore me faire subir pour pas venir à leur fin ? Je savais qu'ils n'avaient pas l'intention de me laisser occuper indéfiniment Luna. Luna, c'est le nom qu'elle a donné au séquoia. Elle représentait un manque à gagner trop important. Le 20 janvier, après des jours de pluie, de vent et de brouillard, le ciel s'éclaircit enfin. La veille, lorsque j'avais entendu qu'il allait faire beau, je supposais aussitôt qu'il ferait voler les hélicoptères pour évacuer les grumes jonchant le sol tout autour de Luna. Duff, un cinéaste engagé, m'avait appelé pour me demander s'il pouvait me rejoindre sur la plateforme et y passer la nuit afin d'assister à l'arrivée des hélicoptères. Même si je n'étais pas trop encline à partager mon espace, j'acceptai tout de même et il monta. Le lendemain matin, nous aperçûmes l'équipe de Columbia grimper la colline. L'hélicoptère était forcément en route. J'avais entendu les bûcherons parler de flux d'air pouvant aller à plus de 450 km à l'heure. Plus les minutes passaient, plus mes doutes et mon appréhension laissaient place à la peur. Je sentais mon cœur gagner dans ma poitrine.
Si vous voulez faire mon bonheur, arrangez-vous pour que j'aie peur.
Merci Alex.
Je t'en prie. Maintenant, Nicolas, tu vas nous lire un texte de Séverine qui ne pouvait pas être présente ce soir.
Ouais, c'est le côté schizophrénie de l'histoire. Je vais me mettre dans la peau de Séverine. Est-ce que je l'ai ouverte avant, tout ça? Je vous laisse... on fait comme on veut. Voilà que l'on parle de la peur, de celle qui nous sépare de l'autre, celle qui nous empêche de trouver les mots, ceux qui sont le pont entre nos mots, qui nous permettrait de sortir de notre bulle, notre monde intérieur, nos peurs nous isolent. Au-delà de ces peurs, il y a un infini des possibles, de toi à moi, là où cesse la peur, naît l'amour.
Je t'aime, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime.
La peur cesse quand la conscience l'englobe. L'amour guérit la peur et la remplace. Par cet amour, le pont entre nous se renforce et tisse un nouvel univers. Cette peur, elle nous vient de loin, de nos lignées ancestrales et de notre condition d'être humain, vouée à l'amnésie et à la mort. Mais avoir peur de mourir n'empêche que de vivre. On cultive de nos jours dans nos jardins beaucoup trop de peur, qui nous évite parfois des maladresses. Mais pas le danger, qui est de vivre chaque instant, dans nos êtres pétris et embrumés par la paralysie. À trop attirer à soi ce que l'on redoute le plus, on se perd jusqu'à la moelle de ce qui nous constitue. Un être de bonté, de beauté, un être qui peut faire le bien.
Et puis, y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas.
Longtemps j'étais attaché au pilori de mes peurs, de mes angoisses, avec vos pensées qui m'attaquaient. Mon corps coupé de moi, après des années de lutte, je me suis détaché de ce poteau de torture qui était ma propre tête. Et là, je vis un amour si puissant qu'il balaie les appréhensions qui restent. Je me sens maintenant libéré du poids de mes propres limitations. Merci à la peur de m'avoir aidé à me connaître. C'était un texte de Séverine, aka Lily.
La prochaine lecture sera effectuée par Dominique, qui nous a amené un livre.
Non, oh, c'est moi.
Un texte. Ouais. De ton stylo, très bien.
Voilà. De tout un tas de choses, j'ai peur. Choses physiques ou mentales, du palpable à l'orbital, de l'araignée velue à la conquête spatiale, au voyage en bateau, car je connais mon mal. Si, et je ne suis qu'appariteur en matière sociale. Oui, j'ai peur, je l'avoue, d'aborder une femme, de lui dire qu'elle me touche, de ses mollets à son âme, de franchir dans l'espace ce vide plein de tensions et gravir à quatre pattes le monde de l'attraction. Mais ce que je redoute le plus ces jours-ci, mes amis, c'est de voir autour de nous, partout, la technologie. La technique par l'outil, pourquoi pas, c'est pensable. Mais penser par la technique nous devient concevable. Si encore ces IA, elles avaient un peu d'humour, peut-être ça serait pire, mais toujours, quel spectacle.
Merci. Et maintenant, Sophia, tu as amené un livre et tu vas nous lire un extrait de ce livre qui est un peu en lien avec la technologie.
Oui, tout à fait. C'est un livre qui s'appelle « Un psaume pour les recyclés sauvages » de Becky Chambers. Et en fait, ça se passe dans un monde futur où il n'existe qu'un continent qui s'appelle Panga et où cohabitent des humains et des robots. Sauf que ces deux espèces ne se rencontrent jamais, jusqu'au jour où un robot qui s'appelle Omphale est envoyé chez les humains pour essayer de répondre à une question: de quoi les humains ont-ils besoin? Et Yel, parce qu'il faut préciser que les personnages de son livre n'ont pas de genre, donc ils sont référés par Yel pendant tout le livre. Donc Yel tombe sur Dex, qui est un moine de thé, qui est un métier commun dans ce monde où le livre se passe. Et ce livre, en fait, pourrait se définir comme un conte philosophique, parce que pour répondre à cette question, il parle de beaucoup de questions philosophiques. Et dans ce passage, il se trouve près d'une usine en ruine, et donc il parle de la survie des écosystèmes, et là-dedans, il y a aussi un peu de peur. Donc je vais vous lire un extrait. Dex ferma les yeux, le temps de dépoussiérer ce souvenir. Jadis, les gens ont tué tous les champs sauvages de Côte-Bleue, parce qu'ils voulaient pêcher et partir en randonnée sans risquer de se faire attaquer. Oui, et ça a déstabilisé tout l'écosystème. Plus exactement, les élans ont déstabilisé l'écosystème. Ils ont étendu leur territoire et ils ont tout dévoré. Les buissons, les jeunes arbres, tout. Le sol s'est retrouvé à nu, ce qui a accéléré l'érosion, déréglé les cours d'eau et causé des problèmes à tout un tas d'espèces. Une pagaille incroyable. Mais pour les élans, c'était la meilleure nouvelle de leur histoire. S'ils se tenaient à l'écart, c'était à cause de la peur. Ils vivaient dans la terreur permanente qu'un chien sauvage leur saute dessus et les dévore, eux ou leurs petits. C'était une vie affreuse. Quel soulagement! Être enfin libéré des prédateurs, pouvoir manger tout ce qu'il voulait. Mais c'était l'exact opposé de ce dont l'écosystème avait besoin. L'écosystème, pour perdurer, avait besoin que les élans aient peur. Les élans ne veulent pas avoir peur. La peur, c'est terrible, de même que la douleur et la faim. Chaque animal est programmé pour mettre un terme à ses sensations le plus vite possible. Nous cherchons à nous sentir bien, avec un estomac plein et un sentiment de sécurité. Ce n'était pas la faute des élans. Eux, ils voulaient juste souffler un peu. Dex fit un signe de tête vers l'usine en ruine. Et les gens qui ont construit ça, ce n'était pas leur faute non plus, du moins pas au début. Ils voulaient se sentir bien, ils voulaient que leurs enfants atteignent l'âge adulte, ils voulaient que la vie soit un peu moins dure. Tous les animaux auraient fait comme eux. Ils font comme eux dès qu'ils en ont l'occasion. Comme les élans. Omphale hocha lentement la tête. Le paradoxe, c'est que l'écosystème a besoin que les créatures fassent preuve de modération, alors que les créatures n'ont pas de mécanisme inné incitant à la modération. Sauf la peur. Sauf la peur, qui est un sentiment qu'on cherche à éviter ou supprimer à tout prix. Dans la tête d'Omphale, les circuits électriques bourdonnaient. C'est compliqué. Oui. Qu'a-t-on fait? Pour les élans, tu veux dire? Oui. On a réintroduit des champs sauvages et l'équilibre s'est rétabli. Et les gens qui voulaient pêcher tranquillement? Ils ne pêchent plus. ou s'ils pêchent, ils acceptent le risque, comme les élans. Parce que l'alternative est plus redoutable que les chiens, on compte toujours sur la peur pour maintenir l'équilibre.
Alors, je vous propose, parce qu'on a le temps, on ne savait pas très bien si on aurait encore du temps, mais je crois qu'on a encore du temps. Je vous propose de revenir un peu à la réalité, mais en même temps, c'est une réalité qui dépasse la fiction. Alors, je ne sais pas très bien si c'est la réalité ou pas. Donc, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « L'Empire de l'or rouge », écrit par Jean-Baptiste Mallet, qui est... journaliste, une enquête mondiale sur la tomate d'industrie. Rayon conserve, allez, riez pâte. Dans les supermarchés, celle ou celui qui se penche devant les rayons pour choisir une boîte de concentré, une bouteille de ketchup, une conserve de tomates concassées ou un pot de verre contenant une sauce déjà cuisinée à base de tomates, croit généralement que l'ingrédient principal de ces marchandises est une tomate, guère différente de celle que l'on trouve au rayon primeur ou au marché. Certains se doutent bien qu'il s'agit d'une tomate de production intensive, mais tout le monde ou presque la croit ronde, ayant poussé sur un plan tuteuré. Après tout, une tomate n'est-elle pas une tomate ? Certes, chacun sait qu'il en existe de multiples variétés, de bonnes et de très mauvaises. Il y a, m'a-t-on souvent répété, celles du jardin qui poussent dans les potagers ou les champs, et les autres dans les serres, hors sol, sur substrat. L'imaginaire de la tomate est puissant et les industriels s'appliquent à le perpétuer. Qui a déjà vu une tomate d'industrie ? Elle est à la tomate fraîche, ce qu'une pomme est à une poire. C'est un autre fruit, une autre géopolitique, un autre business. La tomate d'industrie est un fruit artificiellement créé par des généticiens dont les caractéristiques ont été pensées pour être parfaitement adaptées à sa transformation industrielle. Elle est une marchandise universelle qui, une fois transformée et conditionnée en baril, peut parcourir en distance plusieurs fois le tour de la Terre avant d'être consommée. Ses circuits économiques sont tentaculaires. Partout et sur tous les continents, on la distribue, la commercialise, la consomme. Cette tomate d'industrie n'est pas ronde, elle est oblongue. Elle est aussi plus lourde, plus dense qu'une tomate fraîche, car elle contient beaucoup moins d'eau. La peau d'une tomate d'industrie est très épaisse, elle résiste et croustille sous la dent quand on essaye de la mâcher fraîche. Le fruit est si dur qu'il peut supporter de longs voyages en camion, puis son maniement pour les machines. La tomate d'industrie ne se gâte pas si facilement. Des agronomes l'appellent pour plaisanter la tomate de combat. Elle est tellement ferme qu'elle n'éclatera jamais, même si elle est placée tout au fond de la benne, sous la masse de plusieurs centaines de kilos récoltés. Elle est étudiée pour... Il vaut d'ailleurs mieux éviter de jeter des tomates d'industrie à la figure d'un artiste ou d'un dirigeant politique, car ce serait le lapider, ce qu'il ne mérite peut-être pas.
Merci Alex.
Pour conclure, peut-être qu'on peut refaire un tour de table sur vos peurs personnelles. Dominique, Gaëtan,
ouais.
Sophia.
Moi c'est un rapport avec le texte, mais je crois que c'est Alain Damasio qui m'a filé, avec les furtifs, qui m'a filé il m'a traumatisé. Maintenant, j'ai la trouille de tout ce qui est technologie. J'ai même mon portable.
Technophobe.
Voilà. Et même mon portable, c'est un téléphone à touche. J'ai même pas d'imprimante à la maison. C'est bon. Bref. Et ouais, voilà. Donc, quelque part, je suis traumatisé, mais quelque part aussi, je lui dis merci, quoi. Parce que. Voilà.
Ouais, c'est pour ça que tu passes à la radio.
Ouais. Ouais, mais c'est la bande FM. Ça marche.
Bah, moi, rien de très original. J'ai juste peur à quelle heure de mourir je me dise que je suis passé à côté de ma vie, c'est tout.
Ouais, bah ça peut se comprendre. Ah ouais. Moi, j'ai... Bah oui, pourquoi je pense. De regretter un peu. La peur du regret. Bah moi, j'ai aussi un peu peur que mes proches meurent. et d'une manière subite un peu. Peut-être ça rejoint un peu la peur du vide qu'il laisse, il et elle laisse.
Et moi, je pourrais rajouter que c'est pas pour rien que j'ai choisi ce livre, c'est que moi, j'ai peur des supermarchés, et c'est vrai.
Ouais. Ça t'angoisse ?
Ouais.
Supermarchophobe.
Bah, au final, je me disais aussi qu'on est parti dans cette émission de choses très concrètes, comme les blessures et la guerre. Puis on s'est un peu aventuré, et puis au final, on est revenu sur des choses assez concrètes, comme la technologie, les supermarchés, les écosystèmes. Donc voilà, on a fait un petit voyage. Peut-être Nico, tu veux ajouter un truc aussi à Gaëtan ou Quentin?
Ouais, moi je me mets à avoir peur de la tomate et je vois que mon micro il est rouge. Je commence à me poser des questions.
C'est bien, c'est bien.
Non, rien de particulier, oui, les peurs irrationnelles et les peurs rationnelles, les trucs du quotidien et les trucs plus... la peur de la mort, bon, on le sait, hein, quand on est né, on est programmé pour vieillir, s'user et puis partir. Après, on peut croire ou pas à ce qu'il y aura après. Mais ouais, les supermarchés, la nouvelle technologie, c'est des trucs qui sont plus récents, on va dire. Qui ne viennent pas du fond des âges.
Des peurs modernes.
Ouais, des peurs modernes, effectivement.
Il y avait, c'était stoïque grec qui disait quelque chose comme on peut se soucier de des choses qui nous touchent directement en quelque sorte, et puis le reste quelque part on s'en fout, mais non mais c'est vrai. Et
stoïque.
Ouais, quelque part, mais la tomate et les nouvelles technologies, pour moi, il y a un lien, parce que c'est des choses, pour le coup, nous, on n'a rien à y faire, quoi. Moi, je n'irais pas trafiquer un téléphone ou des choses comme ça, ou cloner une tomate, mais au final, ça fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous.
Et qui est dans ta vie quotidienne.
Mais qui sont quand même dans la vie quotidienne, et dont on devrait avoir quelque chose à décider dessus, quoi.
Mmh. Ouais, une nomenclature, quelque chose qui empêche justement ce type de dérive, comme
parce
les supermarchés.
Parce qu'on est très déconnecté de ce qui est vivant, quoi. On a cette séparation. Voilà, on va au supermarché pour acheter des choses à manger, alors qu'on se rend pas forcément compte d'où elles viennent, quoi.
Donc, je vous invite à planter vos tomates ce printemps.
Bah, merci à toutes et à tous.
Merci à vous, c'est le mot de la fin, hein. Plantez vos tomates, ça finit comme ça.
Ça me fait penser à ça Candide, cultiver votre jardin. Bah, c'est un beau message pour finir. Et donc c'était La peur à l'oreille sur Radio Larzac à l'occasion des Nuits de la Lecture. Merci à toutes et à tous pour avoir participé.
Merci.
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 Nous avoir invités.
Merci Nico à la technique.
De rien.
Et faites de beaux rêves.